rencontre sur Radio Orient.
Vous êtes bien sur Radio Orient, l'invité de rencontre, Elie Masbounji, journaliste, président fondateur de Trilogue News. Elie Masbounji, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été élu président de l'Association de la presse étrangère. Tout simplement, est-ce que vous pouvez nous dire tout d'abord comment vous appréhendez cette nouvelle mission que vous avez déjà exercée, Elie Masbounji?
Mission difficile, sinon impossible pour plusieurs raisons. Et à des raisons d'ordre général qui s'expliquent par la crise que connaît la presse depuis des années. À titre d'exemple, en 2001 et 2002, lorsque j'avais eu un premier mandat à la tête de l'APE, nous étions 700 journalistes. Aujourd'hui, nous sommes 200. La raison est la crise de la presse en général, la presse écrite bien entendu en premier lieu, et puis les médias d'une façon générale, du fait de la multiplication des sites d'information qui poussent par centaines comme des champignons, et aussi des réseaux sociaux qui pensent avoir une prééminence ou une emprise réelle sur l'information. Alors il s'agit d'informations souvent non vérifiées, lorsqu'elles ne sont pas d'ordre personnel, des gens qui se font photographier avec leur chien ou avec leur tante ou épouse, banalités, mais ça, quand même, ça a une influence sur la lecture des journaux, de la presse écrite, sur l'écoute des radios et sur la traduction qui consiste à regarder les chaînes de télévision aux heures d'information et les programmes favoris. Mais il s'agit maintenant de remonter la pente en donnant aux journalistes des moyens d'envoyer à leur journal des articles qui sortent des sentiers battus. Et ceci pour des raisons pour aider ces journalistes, puisque avec la crise de la presse et des médias, il y a des peut-être dans le monde des dizaines de milliers de journalistes qui ont été remerciés. Pour donner quelques exemples, à Paris, il y avait des bureaux de maisons prestigieuses comme CNN qui employaient 7 personnes qui a fermé. Et le groupe allemand Axel Springer a fermé son bureau alors qu'il avait une vingtaine de salariés. Il y a des journalistes qui étaient rétribués, qui étaient appointés, qui ont été transformés et qui ont été transformés en journalistes pigistes et des pigistes qui ont été tout simplement remerciés. Donc l'idée est de donner à ces journalistes aujourd'hui l'occasion d'écrire des sujets originaux, des voyages dans la France pour mieux découvrir la France et à l'étranger, et là où il y a des pays où il se passe quelque chose d'intéressant.
Il s'agit pour vous de valoriser l'importance des correspondants de la presse professionnelle.
Voilà, surtout leur donner des sujets que les agences ne donnent pas nécessairement. Il y a une fausse idée chez certains rédacteurs en chef qui consiste à se dire ou à dire à leurs supérieurs: voilà, puisque nous recevons un flot d'informations du monde entier par Internet et par les agences et par les réseaux sociaux, pourquoi faut-il nommer un correspondant à Londres, un autre à Paris, un autre à New York? C'est une fausse idée, puisque un correspondant donne quelque chose de senti, quelque chose de plus intéressant au lecteur, plus intéressant pour le lecteur que les nouvelles brutes qui sont reçues par les agences. Mais bon, c'est un débat qui va se prolonger encore. Mais la mission donc dont je viens d'être chargé et que j'ai assumé en 2001 et 2002 dans des meilleures conditions, puisque nous étions 700 journalistes accrédités Aujourd'hui, nous ne sommes que 200. Et il faut donc remonter la pente et donner plus d'avantages aux journalistes, des avantages directs matériels, c'est-à-dire des réductions sur les voyages, des avantages sur les journalistes qui viennent d'arriver au niveau de l'achat de voitures, puisqu'ils ont droit à des voitures hors taxes pendant 2 ans. Et d'autres avantages de ce genre.
Parce que beaucoup de journalistes subissent la précarité aujourd'hui, vous le soulignez également.
Oui, la précarité, et il faut aider donc ces journalistes à avoir des avantages pour qu'ils puissent assumer leur responsabilité de la meilleure façon possible. La précarité, bien sûr, et aussi défendre les intérêts des journalistes. Et qui ont été renvoyés sans cause, qui ont même dans leur pays, intervenir dans leur pays pour essayer de savoir pourquoi ils ont été renvoyés et si leurs droits ont été lésés. C'est une tâche difficile, bien sûr, mais avec le comité, nous allons essayer de nous attaquer à ce travail difficile.
Et justement, vous, de quelle marge de manœuvre vous disposez au sein de l'Association de la presse étrangère pour mener cette mission ?
On peut parler de mobilisation. Chacun peut mobiliser un groupe d'amis, à plus forte raison, une association qui existe depuis 1884, je pense, et qui s'est arrêtée, qui a suspendu ses activités pendant la Deuxième Guerre mondiale pour reprendre sous l'appellation « Association ». Puisqu'auparavant, elle s'appelait Syndicat de la presse étrangère. Et le rôle traditionnel donc de cette association est de défendre les intérêts des journalistes, d'abord en France, à leur arrivée, les aider à avoir les documents d'accréditation, les aider dans des domaines plus pratiques, leur trouver un lieu de travail, leur trouver même des lieux où ils pourraient habiter, quand ils n'ont pas les moyens. Et se prendre compte aussi, tenir compte aussi de ceux qui viennent de pays difficiles, c'est-à-dire de pays où il y a des événements importants, où il y a des crises économiques. Donc, nous adapter à chaque cas et essayer de rendre le travail de ces journalistes difficiles, car en ce faisant, nous participons au rayonnement de la France et nous participons au soutien des moyens de communication, même les nouveaux médias qui sont bien sûr des médias d'avenir.
Est-ce que ce dont vous parlez ne concerne pas uniquement une corporation, en l'occurrence celle des journalistes, mais concerne l'ensemble de la population impactée par la qualité de l'information qui lui est délivrée?
Oui, en encourageant et en aidant les médias traditionnels qui sont depuis leur création, sérieux, rigoureux, précis et dans l'information, les aider bien entendu en défendant les intérêts de leurs collaborateurs pour qu'ils puissent les garder et qu'ils puissent assurer une information vraie et crédible face à tout ce qu'on voit autour de nous, ce qui est lamentable, surtout dans les réseaux sociaux. Les fake news deviennent un véritable fléau. Donc, et les gens ont tendance à prendre les informations qui ne sont pas vérifiées au départ et les répéter. Et quand ça cause du tort à une personne ou à une entreprise, le mal est fait et il est difficile par la suite de rétablir la réalité. D'ailleurs, quand le mal est fait, il atteint des milliers de personnes et parfois plus. Et quand la vérité est rétablie, c'est à peine répété par un ou deux médias. Mais le mal est déjà fait. Donc, si vous voulez, la mission indirecte que nous voulons assumer va, comme vous venez de le dire, au-delà de l'aide aux journalistes et aux médias.
Vous exercez cette profession depuis plusieurs dizaines d'années.
Ah, vous... 1965, au journal Le Soir.
Justement, l'évolution de la qualité de l'information, est-ce qu'il y a eu des phases décisives dans l'évolution de cette qualité?
Il y a eu des hauts et des bas. Selon le pays, moi qui connais, qui ai fait mes premières armes au Liban, donc au cœur du Moyen-Orient, l'information, les médias, si vous voulez, ont connu des moments difficiles, les guerres, les secousses et les crises qui ont suivi ou qui ont précédé les détériorations régionales. La liberté de la presse a été muselée dans plusieurs pays. Et il n'y a qu'au Liban qu'il a gardé une liberté encore contrôlée, encore pas totale ni permanente. Elle a été contrôlée pendant les périodes de guerre, pendant l'occupation syrienne et dans les moments difficiles où il y a eu une véritable censure au Liban. Mais c'était des périodes vraiment qui se mesuraient par semaine. Et heureusement, le Liban a gardé, même jusqu'à aujourd'hui, une liberté d'expression qui n'existe pas dans les pays de la région. Le Liban, à cause de la liberté d'expression, a malheureusement servi de guerre comme éducation entre des pays arabes antagonistes, Syrie contre Irak au moment où le parti Baas s'est scindé, l'Égypte contre la Libye, l'Égypte contre l'Arabie Saoudite du temps de la guerre du Yémen, la première, pas celle de l'Oubli. Donc la liberté d'expression a permis à des pays arabes de régler leurs comptes par journaux et médias libanais interposés. Ça a bien sûr porté atteinte au sérieux, à l'objectivité et par conséquent à l'intégrité de la profession.
Vous l'avez dit, cela fait plus d'un demi-siècle que vous exercez cette profession. Quels sont les éléments qui vous ont marqué au cours de votre carrière?
En fait, les éléments, ce sont des missions que j'ai assumées à travers le monde, des missions dont je me rappelle quelques-unes, les obsèques du président Nasser, quelque chose de très impressionnant. Le premier contact entre les États-Unis et les pays de l'Est qui a été initié par le président roumain Ceausescu à l'époque, lorsque le président Nixon est venu en Roumanie, c'était la première visite d'un chef d'État américain dans un pays de l'Est, à l'époque qui a été couvert par 900 journalistes. Je me trouvais. Autre expérience intéressante et inoubliable, le printemps de Prague, où je me suis trouvé sur place au lendemain de l'entrée des troupes soviétiques dans la capitale tchécoslovaque à l'époque. J'ai eu des rencontres avec des opposants et j'ai écrit 7 articles qui ont été jetés au journal Le Soir à l'époque. Et là, pour l'anecdote, parmi les 7 articles, j'avais consacré un article sur les filles de Prague, donc les réseaux de filles qui tenaient compagnie aux étrangers, il n'y en avait pas beaucoup. Quand j'ai fait une espèce de sondage personnel, je me suis rendu compte que parmi les 7 articles, celui qui avait été le plus lu, c'était l'article intitulé « Les filles de Prague ». C'était pour moi une déception, alors que j'avais réalisé des interviews avec des jeunes de l'opposition et des exclusivités, même des photos que j'ai envoyées au journal. Beaucoup de d'histoires de ce genre. Plus récemment, les négociations, en fait, j'ai écrit que c'était une reddition entre Liban et Israël en 1982, lorsque il y avait des négociations tous les jeudis, une fois à Khaldé, au Liban, sous la protection de l'armée israélienne qui accordait elle-même les permis, et une fois à Kiryat Shmona en Israël. Donc c'était une négociation, une en territoire libanais, mais sous souveraineté israélienne, et une en Israël. Et ça a abouti à l'accord de 17 mai qui n'a pas tenu. J'avais titré à l'époque que ce n'était pas une négociation, que c'était une reddition, et la réalité a donné raison. J'ajoute à cela deux élections présidentielles mouvementées au Liban, celle du président Fourgier qui a gagné l'élection à une voix, et constitutionnellement, ça a été calculé comme une voix, mais il y en a qui ont dit qu'il avait gagné un demi-voix. C'était une séance mouvementée. Élection de Bachir Jemayel dans une caserne de l'armée à côté de Beyrouth, dans des conditions très très difficiles, à l'ombre des chars israéliens qui occupaient le Liban. Donc autant de souvenirs professionnels que j'espère pouvoir écrire dans un livre lorsque j'aurai l'esprit suffisamment tranquille et aussi le temps pour écrire ce témoignage sur la carrière qui n'est pas finie, mais où j'ai vécu donc la plus grande partie et la partie la plus intéressante de ma vie professionnelle. Intéressante, je ne sais pas, peut-être les prochains jours nous réservent des catastrophes encore plus importantes. Et au Liban, ça laisse présager de catastrophes inédites, même pendant la guerre. Nous vivons des moments plus difficiles que les années de guerre, la guerre civile qui a commencé en 75. En 75 et qui a duré jusqu'en 90.
Merci, Elie Mazbounji. Vous êtes le président fondateur de Trilogue News. Vous avez longtemps collaboré pour le quotidien libanais L'Orient le Jour et vous avez été élu président de l'Association de la presse étrangère, une mission que vous aviez déjà exercée à plusieurs reprises. Merci beaucoup, Elie Mazbounji. Merci à vous, chers auditeurs, et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.
Rencontre sur Radio Orient.